Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's what made you... You did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi ? 101.5 ? Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. C'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ce soir sur les ondes de Radio G dans l'émission Bande Geek Mafia pour vous parler lecture. Ces deux mois de confinement nous ont donné du temps pour lire et éventuellement la possibilité et l'envie de nous replonger dans la lecture de livres coup de cœur. Cette envie, je l'ai eue de mon côté grâce à un défi lancé par mon amie Marine, à qui j'en profite pour faire un petit coucou. Ce défi, elle me l'a lancé sur un réseau social. Je devais donc proposer tous les jours pendant une semaine un livre que j'avais beaucoup aimé, sans explication, sans critique. Seule la première de couverture devait apparaître. Je vous propose donc ce soir non pas de vous présenter les 7 livres que j'ai proposés à cette occasion, mais d'en sélectionner 3, peut-être les moins connus. Je commence avec un premier roman, celui de l'auteur Hélène Gestern qui s'intitule « Eux sur la photo ». Sorti en 2011, il figurait dans la liste du prix littéraire proposé par les bibliothèques du réseau d'Angers. Vendu à 600 000 exemplaires, il a été traduit dans plusieurs langues, dont l'anglais et l'italien. Alors de quoi s'agit-il ? Une petite annonce dans un journal, comme une bouteille à la mer. Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle avait 3 ans. Ses indices, deux noms et une photographie retrouvée dans des papiers de famille qui montrent une jeune femme heureuse et insouciante, entourée de deux hommes qu'Hélène ne connaît pas. Une réponse arrive. Stéphane, un scientifique vivant en Angleterre. Il a reconnu son père. Commence alors une longue correspondance, parsemée d'indices, d'abord ténus, puis plus troublants. Patiemment, Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives familiales, scrutant des photographies, cherchant dans leur mémoire. Peu à peu, les histoires se recoupent, se répondent, formant un récit différent de ce qu'on leur avait dit. Et leur découverte, inattendue, questionne à leur tour leur regard qu'ils portaient sur leur famille, leur enfance, leur propre vie. Hélène Gestern nous livre avec brio, dans « Eux sur la photo », une réflexion sur le secret de famille et la mémoire particulière que fixe la photographie. Elle suggère que le dévoilement d'éléments inconnus, la résolution d'énigmes posées par le passé ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les comprenons et dont nous acceptons qu'ils modifient ou pas ce que nous sommes. Ce roman par lettres est tout simplement captivant. L'auteur gère avec talent un réel suspense dans cette enquête familiale qui réserve surprise après surprise. Mmh.
voilées, trois silhouettes sur la dune, trois ombres chinoises au loin, trois corps sous la lune, trois points. Les amours, les photographies, la vie passe.
Je vous invite également à découvrir les deux autres romans publiés par Hélène Gestern, La part du feu et surtout Portrait d'après blessure, sorti en 2014, dans lequel l'auteur s'interroge sur le droit à l'image. Depuis, ont aussi été publiés L'odeur de la forêt, qui raconte l'enquête menée par une historienne de la photographie à propos de lettres et de l'album photographique d'un soldat de la Première Guerre mondiale, mais aussi L'eau qui dort, qui retrace l'histoire d'un représentant de commerce qui disparaît sans laisser de traces. Je poursuis cette présentation coup de cœur avec la pièce Forêt, troisième volet de la trilogie Le sang des promesses, écrit par l'auteur Wajid Mouawad. Il est un auteur, metteur en scène et comédien canadien. Bien qu'il ait vécu au Liban et en France, il est établi au Canada depuis 1983. Il connaît le succès avec les deux premiers volets de sa trilogie, Le sang des promesses, donc avec Littoral qui est sorti en 1997 et Incendie en 2003. Ce dernier, Incendie, est adapté au cinéma en 2010 par Denis Villeneuve. Alors de quoi parle la pièce Forêt ? En remontant le fil de ses origines, Lou ouvre une porte qui la conduira au fond d'un gouffre, car là se trouve la mémoire de son sang. Une séquence douloureuse d'amour impossible qui va de Odette à Hélène, puis à Léonie, à Ludivine, à Sarah, à Luce, et enfin à Aimée, sa mère. À travers les destins entrecroisés de ces femmes liées par le sang, toutes entraînées par le grand bouleversement historique du XXe siècle, Forêt remonte aux sources des fêlures humaines, intimes, familiales, historiques. C'est une pièce sur les promesses, sur ce qui fait qu'on ne tient pas nos promesses, sur ce qui fait qu'on ne se remet pas des promesses jamais tenues qu'on nous a faites. Qui de mieux pour en parler que l'auteur ? Je vous propose donc la lecture d'un extrait de la préface du livre. Avec Forêt s'achève pour moi, je crois bien, une manière de raconter et de déplier une histoire. S'achève aussi cette conviction de la nécessité des origines et de l'héritage. Comme si, plus important encore que le passé, il y avait les ténèbres qu'il fallait pénétrer, quitte à y laisser sa peau et sa raison, pour tenter d'éclairer la violence de notre présence. Forêt, en ce sens, clôt définitivement ce quelque chose sans nom, sans titre, sans rien, amorcé en 1997. Quelque chose qui pourrait ressembler à une odyssée entreprise par Wilfried dans Littoral, poursuivi par Jeanne dans Incendie, et que Lou mène à son terme dans Forêt. Quelque chose sans identité, mais qui tourne cependant, je crois, autour de la question de la promesse. Promesse tenue, promesse non tenue, promesse énoncée, promesse renoncée, trahie, tenue, et puis oubliée, et de nouveau tenue, abandonnée, rejetée, reniée, moquer puis pleurer. La promesse et sa nécessité, comme une erreur ou encore comme un bonheur, comme une damnation ou comme une victoire. Promesse comme une guerre menée contre le sens qui nous dépèce, contre le vide qui nous noie, comme amitié dans le ciel.
Regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux. Conserve mes secrets, je tairai tes défauts. Pour toujours, il n'y aura que nous deux. On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. On s'était promis l'impossible, je l'admets. Je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur. Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes dans notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Maintenant on va le faire, chacun dans le sens inverse. On a jeté nos promesses à la mer. Elle le voyait, elle qui était si sage, que tout serait effacé. L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage. Et puis la vague est passée. promesses, les promesses, les promesses. Les promesses.
J'en termine par un roman jeunesse d'Anne-Laure Bondou. Avec Le temps des miracles, l'auteur nous offre un roman prégnant sur l'enfance en fuite, l'oppression, l'exil, la quête d'identité et l'amour indéfectible d'une mère. Dans la lignée de ses autres romans, Les larmes de l'assassin ou encore Pépite, Anne-Laure Bondou nous émeut, nous attendrit, nous fait rire tout à la fois. Les personnages sont chaleureux, simples, vrais. Qui sont-ils ? Blaise Fortune vit dans le Caucase, avec Gloria Bohème, sa mère d'adoption. Cette dernière l'aurait trouvée lors du déraillement d'un train, dans les bras de sa véritable génitrice, une Française qui n'a pas survécu. Lorsque la guerre éclate, Blaise et Gloria tentent de rejoindre la France. Je vous propose les premières lignes de ce roman coup de cœur. Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Le jour où les douaniers m'ont trouvé au fond du camion, j'avais 12 ans. Je sentais aussi mauvais que le local à poubelle d'Abdelmalik et je ne savais répéter que cette phrase « Je m'appelle Blaise Fortune, je suis citoyen de la République française, c'est la pure vérité. » J'avais perdu pratiquement toutes mes choses précieuses en cours de route. Heureusement, il me restait mon passeport. Gloria l'avait bien enfoncé dans la poche de mon blouson quand nous étions à la station-service. Les renseignements inscrits dedans prouvaient que j'étais née le 28 décembre 1985 au Mont-Saint-Michel, au bord de la Manche, page 16 de l'Atlas vert. C'est écrit noir sur blanc. Le problème, c'était ma photo. Elle avait été décollée, puis recollée, et même si Monsieur A s'était parfaitement appliqué pour refaire le tampon officiel par-dessus, les douaniers n'ont pas cru que j'étais un vrai petit Français. J'aurais voulu leur expliquer mon histoire, mais je n'avais pas assez de vocabulaire. Alors ils m'ont tiré par le col de mon pull pour me faire sortir du camion et ils m'ont embarqué. C'est comme ça que mon enfance s'est achevée. Brutalement, au bord de l'autoroute A4, quand j'ai compris que Gloria avait disparu et que j'allais devoir me débrouiller sans elle dans le pays des droits de l'homme et de Charles Baudelaire.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas?
Alors, je vous rappelle les titres présentés ce soir. Eux sur la photo de Hélène Gestern, publié en 2011 aux éditions Arléa. Forêt de Wajid Mouawad, publié en 2009 aux éditions Babel. Et enfin, Le temps des miracles d'Anne-Laure Bondou, sorti en 2009 aux éditions Bayard. Les autres livres de ma liste étaient Charlotte de David Fuenquinos, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, le classique Jane Eyre de Charlotte Brontë et L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Pour ce défi, ne sélectionner que 7 coups de cœur n'a pas forcément été aisé et j'ai aujourd'hui d'autres titres en tête que j'aurais aimé aussi partager. Mais ce n'est que partie remise et je compte bien poursuivre cette démarche sur les ondes de Radio G bien évidemment, mais aussi via des échanges en réel ou en virtuel. Je vous invite donc tous, vous aussi, à faire la promotion de la lecture en partageant vos coups de cœur sur les réseaux, mais aussi et surtout, entre guillemets, dans la vraie vie, en discutant, conseillant et prêtant vos coups de cœur à votre entourage, amis, collègues. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de Radio G, www.radio-g.fr ou 101.5, la radio qui fait le point.
Keep your distance. La fable des porcs-épics. Qu'est-ce qui fait société? Nous créons des liens avec les autres et pourtant, nous n'avons de cesse de les défaire. Y a-t-il une force attractive qui nous pousse les uns vers les autres et une force répulsive qui nous en éloigne? Voici la réponse d'un célèbre misanthrope et pessimiste du 19e siècle, Arthur Schopenhauer. Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs-épics s'était mis en groupe, serré, pour se garantir mutuellement contre la gelée, par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux maux, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance « Keep your distance !» Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié. Mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui qui possède assez de chaleur intérieure, propre, préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments ni en causer. Arthur Schopenhauer, Par erga et parallèli popmena, paragraphe 396. Pourquoi avons-nous besoin de nous conformer aux normes et valeurs du groupe? Et pourtant, tout en voulant maintenir son identité propre et son originalité. Souvent, se rassembler, se lier en communauté, revient à s'écarter d'autres, à se distinguer, voire à discriminer un autre groupe. Pour mieux être nous-mêmes, nous avons tous besoin de liens avec autrui, d'échanges multiples et de contacts. Et d'autant plus dans cette expérience, cette période de confinement sanitaire qui nous a touchés. Et pourtant, pour être mieux nous-mêmes, nous avons aussi besoin de solitude, de silence et d'isolement. Avant Schopenhauer, Kant avait introduit le concept d'insociable sociabilité, un paradoxe de la nature humaine qui le pousse à s'allier aux autres et à se conformer aux normes du groupe, et en même temps à vouloir s'écarter du groupe et se distinguer d'autrui. Il y voyait là le moteur d'une émulation, voire d'une compétition, et la cause d'un progrès social. N'y a-t-il que la compétition pour nous stimuler et nous faire progresser? N'avons-nous pas besoin aussi de la solidarité, d'entraide et du souci de l'autre? Quelle est la juste distance de toi à moi? Quelle est la juste distance entre moi et l'autre? La politesse, certes, évite de nous blesser les uns les autres. Je souhaiterais me rapprocher de mes amis, mais ne pas les envahir. Je désirerais fusionner avec mon amour, mais ne pas perdre ma liberté.
Repose à toutes ces années de service. spatial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Anti-social.
Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous êtes sans doute très nombreux, comme moi, à avoir parcouru l'ensemble des séries et des films Netflix, les mises à jour réalisées, les séries américaines de votre enfance revues, les séries françaises et les grands classiques reparcourus, et vous êtes arrivés à expiration de l'imagination vous permettant de passer ces moments difficiles. Eh bien, si cinématographiquement vous êtes à plat, cette chronique va certainement vous permettre de passer quelques jours à redécouvrir ou découvrir la série James Bond et le très nombreux lot de films qui lui est associé. Précisément, ce sont 25 films de la saga James Bond qui sont disponibles. 24 si l'on oublie le 25e qui était censé sortir récemment mais qui a été décalé pour cause de coronavirus. Le célèbre « Mourir peut attendre », qui sortira donc en fin d'année, et qui représente le 25e volet de la saga James Bond, est certainement celui qui est le plus attendu depuis ces dernières années. La franchise, avec Daniel Craig, ce sont 5 films, qui commencent par Casino Royale en 2006, Quantum of Solace 2008, Skyfall ou Spectre pour le dernier. Mais loin d'être la représentation réelle des films de James Bond avec Daniel Craig, la franchise commence réellement à faire ses preuves en 1962, avec James Bond contre Dr. No, ainsi que Bon Baiser de Russie et enfin Goldfinger pour le top 3 des premiers films de James Bond. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de nous attarder sur quelques films à voir ou à revoir, car pour vous, j'ai revisionné les 24 films James Bond à voir qui vont certainement vous permettre une sélection des plus optimisées. Alors, tout d'abord, il convient de préciser qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont interprété James Bond et que tous ces acteurs ont traversé les générations, sont passés de la guerre froide au monde actuel sans aucune difficulté, toujours accompagnés de célèbres voitures, célèbres Aston Martin, qui ont été aussi nombreuses que les costumes déchiquetés, les cigares fumés et les verres de whisky, de cognac ou autres alcools divers et variés avalés. Daniel Craig, pour cela, est toutefois le plus à même de nous démontrer une certaine forme d'alcoolisme et de tabagisme au travers des films tels que Casino Royale ou encore Skyfall. Afin de vous permettre de revoir dans l'ordre les derniers films de James Bond, les plus intéressants, les plus impactants, je vous ai fait une sélection de films qui vous permettront certainement de redécouvrir les joies de la saga James Bond. À commencer par Goldfinger, interprété par Sean Connery, sorti en 1964. Goldfinger est sans doute un des films les plus marquants de James Bond pour sa présence virile de son acteur principal et une histoire qui s'avère être légèrement plus simple que les films précédents. Certes, il ne s'agit que d'une simple mission de surveillance dans ce James Bond, mais l'affaire et l'adversaire vont être particulièrement coriace, et ce film est réellement, ce film de Guy Hamilton, un des James Bond les plus impressionnants de sa génération 1964. Roger Moore en 1977 et 1979 dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker aborde un côté légèrement plus fantastique comme dans Moonraker de James Bond et s'adapte parfaitement à son époque. C'est un film intéressant, c'est un film assez troublant aussi Moonraker, mais qui mérite d'être revu. L'espion qui m'aimait, tous les deux donc réalisés par Lévis Gilbert, est un autre film légèrement avant Moonraker en 1977, qui est également une forme d'interprétation de Roger Moore, que nous connaissons très bien pour son flegme anglais. Et ces deux films sont deux interprétations de James Bond à une époque transitoire, 1977 et 1979. Par la suite, on retrouve Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan, 1997, 99 et 2002, qui sont intéressants également, Pierce Brosnan ayant ce côté différent des autres acteurs avec ce flegme qu'on lui connaît très bien. Et cette nouvelle interprétation avec ces nouveaux gadgets, cette nouvelle transition est assez intéressante à regarder, avec une préférence toutefois pour Demain ne meurt jamais. Daniel Craig, c'est Casino Royale, c'est en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall, Spectre, Mourir peut attendre. Et Daniel Craig, c'est une toute autre interprétation, avec parfois certains films qui peuvent être un petit peu complexes et qui peuvent être un petit peu délicats, comme par exemple Quantum of Solace, qui sans être raté est à la fois le moins long de ces films, et dans le même temps sans doute le moins pertinent et le moins abouti, qui nécessite de passer rapidement à Casino Royale pour apprendre à jouer au poker avec bluff et surtout avec encore une fois ce sacré flegme qui caractérise James Bond et qui s'est transmis d'acteur en acteur. Le dernier revu et qui sans doute est un des plus intéressants, des plus aboutis tant sur l'image, sur le graphisme que sur la musique ainsi que sur les avancées de James Bond, c'est sans doute Skyfall, sorti en 2012 de Sam Mendes, qui marque un tournant dans la saga James Bond avec l'arrivée de nouveaux acteurs, le départ de certains acteurs et une transformation profonde du personnage. En tous les cas de figure, le dernier, Spectre, est sans doute une sorte d'adaptation, une nouvelle version d'une sorte de Fast and Furious avec cette scène mémorable de course-poursuite de voitures entre les personnages et qui réellement est parvenu à convaincre son public, mais laisse le spectateur un peu sur sa faim, tant on ne sait pas ce qu'il va advenir du fameux James Bond, qui doit choisir entre une vie d'amour, d'eau fraîche, une vie amoureuse, en couple, ou alors une vie d'aventure au service secret de Sa Majesté. En tout état de cause, en définitif, les 7 films que l'on peut recommander à voir, et pour la saga James Bond, Skyfall, ainsi que Casino Royale, mais également Permis de tuer, Demain ne meurt jamais, Moonraker, L'espion qui m'aimait, et pour le plaisir, si vous avez envie de revoir avec Lord George Lazenby, l'un des plus anciens James Bond de 1969, au service secret de Sa Majesté.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's right, Major, you did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
Quand tu donnes dans ton panier du fromage, quand tu donnes dans ton panier du fromage de chez Morel.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique BD qui va s'organiser autour d'un thème que je vous propose de découvrir maintenant à partir de ces quelques notes de musique. Et oui, vous avez compris, il s'agit du thème du western. Alors, je vais vous présenter deux bandes dessinées qui ont justement ce thème. Première bande dessinée, réalisée par Jacques Lamontagne et Thierry Gloris, Wild West, tome 1, Calamity Jane, aux éditions Dupuis. Donc, avec cette bande dessinée, nous nous retrouvons plongés dans le Far West hostile et sauvage. Dans cette jungle de violence, essaye de survivre une jeune orpheline âgée de 16 ans. C'est Martha Canary, qui est alors femme de ménage dans un saloon de la ville d'Omaha. Elle essaye de rester digne, mais elle finit par tomber sous l'emprise du patron du saloon, et ce dernier va très rapidement la forcer à se prostituer. Voilà le point de départ de l'histoire de celle qui va devenir Calamity Jane. Dans cette BD, les auteurs nous montrent toute la violence de la conquête de l'Ouest, mais aussi une vision de la vie de celle qui deviendra une légende de l'Ouest. Attention, on n'a pas affaire à une biographie officielle, car les jeunes années de Calamity Jane nous sont très mal connues. En effet, la légende brouille les pistes en mêlant le vrai et le faux. En tout cas, cette bande dessinée nous propose une vision très claire de la violence qu'a pu connaître la jeune Martha, qui à la fin du tome ne fera plus aucun cadeau envers ceux qui essaieront d'entraver sa liberté dans sa vie future. Une BD à lire de toute urgence, une BD extrêmement bien rythmée, extrêmement bien dessinée, qui est vraiment superbe. Deuxième bande dessinée aux éditions Soleil, West Legend. Alors, West Legend, en réalité, c'est une série de 6 tomes qui va présenter à chaque fois un mythe de l'Ouest, et derrière ce mythe de l'Ouest, il y a généralement un homme ou une femme, et donc une histoire. Chaque tome est indépendant, ce qui fait qu'on peut lire de manière complètement décousue, commencer par le tome 6 éventuellement, qui n'est pas encore réalisé, mais et pour revenir sur le tome 3, etc. Alors, moi, je vous propose de vous présenter le tome 2, puisque c'est celui que j'ai découvert en premier. Il a été réalisé par Beck, Léonie, Nigrin et Najan. Donc, il s'agit de Billy the Kid, The Lincoln County War, aux éditions Soleil. L'histoire débute en 1878, en hiver 1878, au Nouveau-Mexique. Buck Shock Roberts arrive dans le petit village de Blazer Mills. Il espère trouver une cachette afin de pouvoir se refaire une vie, refaire sa vie suite à des événements dont je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, il attend aussi pour pouvoir reconstituer cette vie, il attend de recevoir l'argent de la vente de son ranch. Mais l'arrivée d'un groupe d'hommes armés, les Régulatores, avec parmi eux un certain William Bonnet, dit le Kid, va chambouler complètement ses projets. L'atmosphère d'un seul coup va s'alourdir, va devenir irrespirable, et à ce moment-là, les bons, les brutes et les truands vont se déchaîner dans le petit village, mais aussi dans le comté de Lincoln, offrant l'opportunité au Kid de devenir le leader naturel des Régulateurs. Donc c'est une BD qui est aussi très très rythmée et qui nous replonge avec délices dans l'atmosphère, et l'univers des westerns si chers à Clint Eastwood, John Wayne ou encore de Quentin Tarantino. Donc pour finir cette chronique, je vais vous rappeler donc les titres des deux bandes dessinées. Donc aux éditions Dupuis de La Montagne Glorious Wild West Calamity Jane, aux éditions Soleil Beck, Léonie, Négrin, Najan, West Legend, Billy the Kid, The Lincoln County War. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle rubrique BD. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches en écoutant Radio G. Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Radio G. www.radio-g.fr.
Chers auditeurs, bonjour, c'est Adrien sur Bandit Mafia, sur Radio G 101.5 FM, la radio qui fait le point. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la petite chronique de la semaine dernière, à savoir les musiques geeks que l'on peut emporter pour travailler, pour se concentrer, pour s'évader, pour rêver, bref, des musiques qui nous font plaisir. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière qu'on parlerait de musique de film, et bien c'est parti. Alors, on commence aujourd'hui avec un film incontournable pour tout geek qui se respecte, puis même pour tout cinéphile qui se respecte, hein, avec le magnifique trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Alors, bien que j'adore moi toutes les musiques de cette magnifique saga, qui reste pour moi donc la meilleure, j'ai dû choisir une musique qui correspondait à l'envolée lyrique de ce petit top de chansons que je vous propose. Alors, j'aurais tout aussi bien prendre la charge d'Héroïrim, le gouffre de Helm ou la charge d'Aragorn lorsqu'ils sont encerclés à la fin, mais cette musique était à mon avis pour moi la mieux placée. Même après avoir revu ces films 200 fois, les musiques et la magnificence du monde créé par Tolkien puis repris par Peter Jackson me font vraiment dresser les quelques cheveux qui me restent sur la tête. Alors on est parti pour écouter du coup Ride of Rohan de l'OST qu'on peut écouter en fait dans le second épisode, hein, Les Seigneurs des Anneaux, les deux tours. Je vous laisse apprécier. Dans un second temps, dans un style un petit peu différent, même complètement différent, puisqu'il s'agit de Transformers 3, hein, de Michael Bay. En fait, il s'agit... Pourquoi cette vidéo-là ? Les qualités, hein, du film sont pas énormes, évidemment, mais c'est plutôt ce genre de petit plaisir coupable qu'on a, et finalement, c'est assez sympa de retrouver ce genre de musique aussi. Surtout que, honnêtement, la qualité de la musique de cette dimension épique va bien au-delà de la qualité du film. Donc, c'est toujours assez sympa. Là, il s'agit d'un des meilleurs sons de Transformers. Pour moi, et voire presque tous les films du genre, hein, parce qu'il soit bien qu'il soit placé assez haut dans le classement, cette musique qui nous accompagne, hein, qui accompagne l'offensive de l'alliance entre les humains et les Autobots, a de quoi nous faire rêver. Alors pour les fans d'Epic, hein, je vous conseille d'aller voir directement sur YouTube cette musique, hein, Transformers 3 OST It's Our Fight. Vous pouvez commencer directement au moment où je vous mets maintenant, à 55 secondes en fait du départ. Donc c'est assez sympa. Je vous laisse écouter. Évidemment, ce petit top de chansons geek de film ne pouvait pas passer à côté de la saga cinématographique Harry Potter. Malgré les nombreuses musiques, hein, celle qui m'a le plus marqué fut celle du tout dernier film, hein, lors de la bataille entre les forces de Gryffondor et celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais qu'on prononce quand même parce que sinon ça fait trop long à prononcer. Ce son m'a particulièrement marqué, hein, car il marque un côté à la fois tragique et épique, alors que la situation est pire que jamais à Poudlard, puisqu'il s'agit en fait du son qu'on est de la bataille de Poudlard au moment où Voldemort va briser le bouclier des défenseurs du château. Donc ça change un petit peu finalement du thème principal que tout le monde connaît et archi connaît, parce que ça donne une dimension aussi un peu dramatique qui est vraiment sympa. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce morceau dans ce top. Absolu de culture comics, je ne pouvais pas passer à côté également de la bande originale d'Avengers, puisqu'avec cette musique, hein, Avengers se place à la deuxième top place de mon classement, avec la sortie du quatrième et dernier volet de cette grande saga de Marvel, Avengers Endgame, qui est donc sortie il y a bientôt un an. Cette composition d'Alain Silvestri accompagne nos héros, hein, dans leur dur combat contre de puissantes forces qui veulent les éradiquer. On est dans Avengers 1, avec la bataille contre les Chitauri menée par Loki. Alors c'était une claque, hein, à l'époque, cette musique, et puis depuis c'est devenu vraiment un hymne aux comics et à Marvel. Donc voilà, un grand grand plaisir pour moi d'écouter cette musique qui est vraiment motivante, hein. Je sais pas pour vous, mais ça donne envie de bouger. Évidemment, on y venait forcément. Comment passer à côté des musiques de Star Wars? Alors, même si elles sont nombreuses, hein, c'est la bande originale du trailer du Réveil de la Force que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'ai pas vraiment aimé la dernière trilogie, mais il faut avouer que la musique de ce trailer était vraiment sympa. Puisqu'à l'époque, hein, après une attente interminable pour la sortie du 7e film, la bande-annonce s'était, rappelez-vous, annoncée de manière fantastique. C'est vrai que la bande-annonce donnait pas mal de hype. Alors la saga créée par George Lucas n'avait pas dit à l'époque son dernier mot, même si bon, Disney en a fait ce qu'elle en a fait. Voilà, on peut toujours apprécier quand même cette musique, et puis évidemment, il faut revenir à tous les morceaux phénoménaux qu'ont fait John Williams, hein, avec George Lucas, comme par exemple le thème de l'Empire, ou bien les thèmes de Luke, Leia, des Jedi, etc. On a vraiment un certain nombre de... Ou même Padmé, hein. Moi j'avais beaucoup aimé Padmé aussi dans la prélogie. On a vraiment là beaucoup de musique très très sympa pour Star Wars, qui est évidemment au top de mon top. pour vous permettre de passer un bon petit moment, un plaisir enfantin, une Madeleine de Proust, un souvenir vraiment nostalgique, je vous propose maintenant un petit mashup Disney réalisé par French Fuse. Hein, je vous conseille vraiment d'aller chercher leur chaîne YouTube French Fuse. Ce sont deux génies du mix, hein, et ils nous ont proposé un truc mais super cool, vraiment trop bien, pour tous les fans de Disney ou pour tous ceux qui ont encore un enfant qui sommeille en eux. C'est vraiment génial. Donc je vous propose maintenant de passer un super moment en compagnie de French Fuse pour clôturer cette petite chronique sur les musiques de films.
Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G. 101.5 FM. Radio G. 101.5 FM.